Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Écoutez, vous allez voir ce que vous allez voir.
Art contemporain, qu'est-ce que c'est pour moi ?
Étrange.
Art.
Espace, œuvre, expérience.
Subjectif.
Art, je pense à quoi ?
Ah mais je t'ai dit que j'y connaissais rien.
Exposition.
La découverte. Du rire parfois.
Photographie, art plastique, dessin, installation, performance.
Ça peut servir à faire passer un message.
Art avec des crayons, une gomme.
Eh bien, c'est ce qui nous aide à vivre en fait, et dont on a tous besoin.
Ceci n'est pas une pipe. Bonjour et bienvenue dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur JetFM 91.2. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission spéciale estivale et découvrir l'exposition « Des soleils mouillés » qui présente le travail de Laura Bottereau et Marine Fiquet, Marjorie Lebert et Léa Viretto, les lauréates du prix des arts visuels de la ville de Nantes de 2021 et dont la commissaire d'exposition est Septembre Tibérien. Cette exposition fait partie du parcours du voyage à Nantes. Elle est visible jusqu'au 3 septembre 2023 dans l'espace d'exposition de la ville de Nantes, l'Atelier, 1 rue Chateaubriand. Elle est ouverte tous les jours, de 10h à 19h. Le prix des arts visuels s'inscrit dans une politique volontariste de la ville de Nantes en faveur de la création et de l'accompagnement des parcours artistiques. Il a vocation à soutenir et encourager les artistes du territoire en leur apportant une bourse, un atelier dans les lieux de la ville de Nantes géré par l'association Bonus, et un accompagnement professionnel porté par le pôle des arts visuels. Extrait du poème de Charles Baudelaire, L'invitation au voyage, qui date de 1857. Le titre, Des soleils mouillés, tel un oxymore, permet d'affirmer les contrastes et la pluralité des points de vue représentés, plutôt que de chercher à les lisser. La douceur esquisse d'un présent éternel y côtoie les réminiscences d'un passé révolu, revisité par les pensées féministes à l'aune d'un monde globalisé et hyper connecté. C'était un extrait du texte écrit par la commissaire de l'exposition Des soleils mouillés, Septembre Tibérien. Nous avons la chance de pouvoir rencontrer les quatre artistes et la commissaire d'exposition pour avoir plus de détails sur le propos de l'exposition et les œuvres qui la composent. Alors, partons à leur rencontre en commençant par Septembre Tibérien, commissaire de l'exposition Des soleils mouillés. C'est parti, suivez-moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc on vient d'arriver à l'atelier 1 rue Chateaubriand pour découvrir l'exposition Des soleils mouillés qui est réalisée par les lauréates du prix des arts visuels de la ville de Nantes de 2021. Et on va commencer par aller rencontrer Septembre Tibérien qui a gagné l'appel à projet pour réaliser le commissariat de cette exposition. Donc là j'aperçois Septembre. Bonjour Septembre.
Bonjour Marine.
Alors, est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter en quelques lignes ?
Oui, bien sûr. Donc, je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, enseignante aussi, basée à Bruxelles. Comme tu l'as expliqué, donc le dispositif du prix des arts visuels de la ville de Nantes prévoit un accompagnement par un commissaire ou une commissaire d'exposition. Et donc, c'est moi cette année qui ai eu l'opportunité d'accompagner Laura Bottereau, Marine Fiquet, Marjorie Lebert et Léa Viretto sur cette exposition qui s'intitule « Des soleils mouillés ».
Du coup, comment ça se passe au niveau de l'organisation à partir du moment où il y a l'appel à projet qui est lancé, on y répond, est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus ?
Oui, bien sûr. Donc c'est un accompagnement à la fois technique, logistique, scénographique aussi, et bien sûr sur les contenus de l'exposition, autant sur l'aspect communication que sur les thématiques qu'on veut souligner à travers l'exposition. Donc ça a été plusieurs rencontres. Moi, je suis basée à Bruxelles, comme je l'ai dit, donc d'abord en une première reconnaissance des lieux, visite d'atelier à deux reprises. Et puis, le projet s'est construit aussi avec les perspectives que les artistes avaient déjà dressées par rapport à leurs travaux en cours, puisque le prix en fait, s'accompagne aussi d'un atelier, donc une résidence de 2 ans, et d'une bourse qui permet aussi aux artistes de produire. Donc on a plutôt concentré nos énergies sur ces productions qui étaient en cours, même si l'exposition dresse un panorama un petit peu plus large de leurs pratiques respectives à chacune des artistes, puisque j'ai souhaité aussi intégrer des œuvres antérieures, ce qui permet aussi aux visiteurs, visiteuses de comprendre un petit peu plus l'amplitude et l'ampleur de la pratique de chacune. Donc les choix se sont faits vraiment en concertation, l'idée étant de valoriser au maximum la trajectoire de chaque artiste. Et il y avait des points de convergence, évidemment, dans les travaux qui permettaient de dresser un petit peu une ligne rouge.
Et donc, si tu devais effectivement détailler ces points de convergence, ça serait lesquels ?
Peut-être que je commencerai par expliciter un peu le titre de l'exposition, « Des soleils mouillés », qui est un renvoi à Charles Baudelaire, un poème qui m'est venu un peu en dialoguant avec les artistes. C'est l'invitation au voyage. Et voilà, on a extrait un vers de ce poème, qui est donc « Des soleils mouillés », qui, en fait, situait assez bien, je dirais, la zone dans laquelle on évoluait dans l'exposition. Donc, « Des soleils mouillés », c'est presque un oxymore. Enfin, il y a l'idée d'une contradiction. Et ça permettait de mettre en valeur, comme ça, aussi des polarités dans les travaux des artistes. C'est une exposition estivale, mais il y avait aussi quelque chose d'assez solaire qui ressortait des travaux, et en même temps une mélancolie qui était aussi assez prégnante. Donc on trouvait ça plutôt juste comme évocation, comme image. Donc je dirais que voilà, il y avait cette idée première, et puis la question d'une forme de sororité, puisque ce sont des artistes femmes uniquement. C'est le hasard des concours qui fait ça, mais pour moi c'était aussi quelque chose que j'avais envie de valoriser. Étant donné aussi que les artistes ont des pratiques assez engagées politiquement, mais aussi plutôt liées à des pensées féministes aussi. Pour toutes ces raisons-là, on a articulé aussi l'exposition par rapport à cette sous-thématique. Et puis, je pense que quand on parcourt l'exposition, on se rend compte aussi qu'il y a constamment l'image des mains qui revient, de la gestualité, qui est présente de manière très différente dans les travaux, qui est liée aussi à des questions de savoir-faire, à des questions de retrouver des gestes de l'artisanat, par exemple chez Marjorie Lebert, des gestes aussi plus intimes, liés à des cueillettes, à des caresses, à du désir. Chez Laura Bottereau, Marine Fiquet, on retrouve aussi dans des pièces très récentes cette question des mains, mais à travers aussi la technique, en fait, le modelage, et aussi les mains comme symbole, en fait, puisqu'elles ont travaillé autour des ex-voto. Et puis, chez Léa Viretto aussi, la question de la main, mais plutôt de la gestualité, rejaillit, et en lien aussi avec l'iconographie religieuse, mais aussi des gestes qu'on utilise de manière quotidienne sur nos interfaces connectées. Donc, je dirais qu'il y a cette autre thématique sous-jacente qui est présente dans l'exposition.
Et au niveau de la déambulation, est-ce qu'il y a un parcours proposé, ou est-ce que c'est libre, ou est-ce qu'on est censé passer d'une œuvre à l'autre, d'une artiste à l'autre ? Comment vous avez travaillé ce déplacement-là ?
Alors, il n'y a pas de parcours obligatoire, c'est ni prescrit, c'est vraiment un voyage, une déambulation dans l'espace, qu'on a voulu assez fluide aussi entre les artistes, pour éviter justement qu'on soit dans une forme de représentation de prix, où chaque artiste a son espace. D'autant qu'il y a des connexions, donc on rebondit plutôt d'une pièce à l'autre. On a évidemment un support d'aide à la visite qui nous permet aussi de nous y retrouver, mais j'espère que les gens aussi se laissent porter par leur intuition ou leur rêverie aussi à travers l'exposition. Il n'y a pas de frontières définies.
Très bien, merci pour toutes ces explications. Dans le travail de commissaire, donc il y a l'accompagnement aux artistes, le dialogue, le choix du titre, on en a parlé. Il y a aussi l'écriture du texte. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu ? Comment tu travailles au niveau de l'écriture ? J'imagine que c'est quelque chose que tu as déjà fait dans d'autres expositions.
Oui, tout à fait. J'ai aussi une pratique de critique d'art, donc effectivement l'écriture fait partie de mon quotidien. Ici, c'était plutôt une aide à la visite, en fait, en quelque sorte. Donc, il y a effectivement un livret guide du visiteur dans lequel on retrouve des textes sur chaque artiste qui contextualise un peu plus largement la pratique, qui évoque aussi certaines pièces qui sont présentes dans l'exposition. Et après, il y a un texte d'introduction qui, lui, ouvre plutôt que referme la lecture de l'exposition, parce que je pense que c'est toujours important de plutôt susciter la curiosité, inviter le public, que d'assigner des significations ou des choses qui enferment la pratique ou le travail des artistes et la lecture qu'on peut faire de leur œuvre. Donc voilà, c'est plutôt une ouverture. Et après, les artistes ont souhaité elles-mêmes écrire des notices plus spécifiques sur leur œuvre. Ça, c'est un souhait personnel que j'ai accompagné aussi et qui fait partie pour certaines de leurs pratiques. Parce que je pense à Laura Bottereau et Marine Fiquet qui ont une composante littéraire en fait dans leur travail, donc ça semblait vraiment naturel de ce travail d'écriture de discours autour de l'œuvre. Voilà, ça c'est un peu propre à la volonté de chaque artiste. Et c'est aussi le travail du commissaire que de s'adapter, de s'ajuster aussi en fonction des besoins des artistes. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends aussi dans ce contexte de prix des arts visuels.
Et ces textes qui sont disponibles donc plutôt à l'accueil, avec un choix de ne pas faire de cartel dans l'espace d'exposition. C'est aussi un choix par rapport à la muséographie.
C'est un parti pris, puisque en fait, visuellement, c'est vrai que les cartels sont assez présents. Donc, comme c'est une exposition qui est assez minimale quand même dans son déploiement, on ne souhaitait pas attirer l'attention des visiteurs spécialement sur les cartels, mais plutôt fournir un document avec lequel ils peuvent repartir aussi. Et ça permet de semer des petites graines pour la suite aussi, pour les personnes qui s'intéressent à certains sujets. Je pense à l'agriculture paysanne, par exemple, ou à l'histoire de la médecine, d'aller plus loin dans leurs recherches. Je trouve que c'est toujours intéressant de fournir ces documents-là qui peuvent permettre d'approfondir par la suite. Donc c'était tout à fait un parti pris. Oui.
Avec aussi une équipe de médiation présente sur place qui permet d'accompagner et de poursuivre le propos que vous avez toutes mis en place.
Oui, c'est très important, d'autant que c'est une exposition qui est amenée à être très grand public et être visitée sur toute la période estivale avec une amplitude importante aussi au niveau des horaires. Donc c'est sûr que la médiation est quand même un élément assez central pour accueillir le public, mais aussi permettre une certaine transmission, puisqu'il y a des œuvres qui nécessitent aussi d'être activées. Je pense à une pièce de Marjorie Lebert qui est un sac de graines, de semences, qui est où les visiteuses sont invités à prendre avec parcimonie et donc à planter aussi plus tard ces graines de fabacées qui sont des légumineuses en fait, des pois et des espèces parfois assez rares aussi. Donc il y a vraiment ce geste de transmission qui est important dans son travail et d'activation par le public. Et tout ça ne peut pas se faire sans l'intermédiaire ou l'entremise des médiateurs, médiatrices. Donc c'est important aussi. Leur rôle est d'autant plus valorisé à travers ça. Et puis il y a une autre pièce qui sera aussi activée lors du finissage le 2 septembre, qui va prendre la forme d'une performance à la fois gustative, sonore, et qui a été réalisée avec le collectif Le Fol, donc, dont fait partie Marjorie Lebert. Et pour l'instant, la pièce elle est installée au sein de l'exposition. Ce sont des formes en terre-paille qui sont des sortes de récipients qui vont accueillir les aliments qui ont été produits et produits de la cueillette aussi par Marjorie Lebert. Ça sera une expérience à vivre. Et les médiateurs, médiatrices sont aussi là pour transmettre cette information-là, mais aussi inviter les gens à revenir. Et je pense qu'il y a aussi une composante évolutive dans le travail de Marjorie Lebert qui est, je pense, intéressant d'attirer l'attention aussi des visiteurs là-dessus. Une dimension olfactive aussi, c'est une expo finalement assez sensorielle.
Finalement, il y a les 5 sens qui sont convoqués.
Oui, tout à fait. Oui. Oui, puisqu'il y a aussi des pièces sonores exclusivement. Quand la gestualité n'est pas représentée, elle est aussi audible.
Très bien, et bien merci beaucoup pour toutes ces explications. Du coup, j'imagine que après tu rentres en Belgique. Donc, est-ce qu'il y a des projets à suivre ?
Oui, tout à fait. Un gros projet, puisque je vais prendre la direction d'une école d'art à Bruxelles, l'ESA Saint-Luc, à partir de la rentrée prochaine. Donc ça sera de nouveaux défis, mais j'espère poursuivre tout de même les activités de commissariat, puisque c'est une passion.
Est-ce qu'il y a un endroit où tu recenses un peu les projets que tu as réalisés ou...
Oui, j'ai un site internet qui n'est pas très à jour, et sinon un Facebook et un Instagram aussi, où on trouve la plupart des choses que je fais s'y retrouvent.
Très bien, eh bien, on te souhaite une très bonne continuation, et puis de toute façon on se verra peut-être le 2 septembre pour célébrer la fin de l'été et clôturer cette belle exposition des soleils mouillés. Merci Septembre, du coup je vais aller retrouver les artistes pour qu'elles nous donnent encore d'autres clés de compréhension sur chacune des œuvres qui ont été produites. Bonne fin de journée.
Merci Marine, à bientôt.
À bientôt, merci, au revoir.
Au revoir.
Vous êtes toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain, sur Jet FM 91.2. On est en train de découvrir l'exposition Des soleils mouillés, qui présente le travail de Laura Bottereau et Marine Fiquet, Marjorie Lebert et Léa Viretto, les lauréates du prix des arts visuels de la ville de Nantes de 2021. On vient de rencontrer Septembre Tibérien, commissaire de l'exposition, qui nous a parlé de l'exposition dans son ensemble, et nous allons maintenant rejoindre les artistes qui montrent leur travail. Allez, on va commencer par Laura Bottereau et Marine Fiquet.
Donc on vient d'arriver à l'atelier, on était avec Septembre qui vient de nous expliquer un peu le propos global de l'exposition des soleils mouillés. Et là on vient de rejoindre deux des artistes lauréates du prix des arts visuels de la ville de Nantes de la promotion de 2021, Laura Bottereau et Marine Fiquet. Bonjour Laura, bonjour Marine.
Bonjour Marine. Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu de votre travail ? Donc, vous travaillez en duo, en binôme. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans les grandes lignes, votre travail, les sujets que vous abordez, juste avant qu'on aille voir un peu les œuvres que vous avez produites spécialement pour l'exposition ?
Alors, on a une spécificité dans notre duo, c'est qu'on travaille en duo et en couple. On travaille ensemble depuis bientôt 10 ans, même depuis 10 ans. Depuis cette année, ça fait bien 10 ans. Et on a une pratique qui touche à l'installation, la sculpture, vidéo et photographie. Et qui traite, c'est un travail assez figuratif, qui traite de représentations de corps qui sont mis en fiction et en mutation de diverses manières.
Ok, et du coup, donc, vous avez postulé au prix des arts visuels de la ville de Nantes. Pour quelle raison ?
La première raison pour laquelle on a postulé, pour être très sincère, c'est l'atelier qui est mis à disposition gratuitement pendant 2 ans. Parce que vraiment, pour nous, c'est un véritable besoin en tant qu'artiste d'avoir un espace de travail. Après, bien sûr, il y a la bourse qui permet de produire des œuvres pour l'exposition, la visibilité qui est permise par l'exposition. Tout ce qui est porté par le prix, en fait, est quand même une super chance pour des artistes à Nantes.
Et donc, dans le prix des arts visuels, il y a effectivement cet atelier et cette mise à disposition. Et il y a aussi cette exposition qui est une manière de montrer une partie de votre travail. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qu'est-ce que vous avez décidé de présenter ?
On a décidé de penser l'exposition de manière à former une généalogie dans notre travail, de puiser donc dans notre travail dans des œuvres qui ont déjà été créées, des œuvres antérieures, mais aussi de penser des œuvres spécifiquement pour ce format d'exposition. Donc on a 5 œuvres qui sont présentées dans l'exposition collective qui vont de 2018 à nos jours.
C'est une variation, enfin en tout cas comme tu disais, une généalogie mais aussi une variation dans les différents matériaux et les différentes manières de travailler. Il y a des œuvres qui sont constituées uniquement d'objets existants, on a un travail sur le corps qui part beaucoup aussi à partir de ce qui existe déjà comme objet qui représente le corps. Donc à travers des photographies et une installation, notamment les vieux démons, il y a vraiment cette idée de partir de l'existant et de le détourner, de le mettre en scène différemment. Et les nouvelles réalisations qu'on a produites plus récemment sont à l'inverse des sculptures vraiment, enfin des installations avec des éléments sculpturaux où là on est venu tout fabriquer en cire, à travailler de moulage, de modelage, des détails, mais il y a différentes dimensions, disons, dans l'exposition.
On va retrouver différents corpus d'objets ou des corpus littéraires.
Donc là, quand on arrive dans l'atelier, on rentre, on passe une cimaise blanche et puis on se déplace vers la droite. Et on arrive dans le grand espace de la droite où il y a une partie des œuvres qui communiquent les unes avec les autres.
Alors on est face à une série de photos, enfin d'images, qui s'appelle Engouttelette analogue. Donc on a 6 photographies accompagnées d'une page. Cette série de photos, elle a été réalisée à partir des collections et des réserves du musée de l'écorché d'anatomie du Neubourg en Normandie, suite à une résidence à deux angles, à Flers. C'est donc une série de photographies qui emprunte à 2 corpus d'objets, des objets pédagogiques, qui ne datent pas de la même époque, c'est aussi cet anachronisme qui nous plaît. Les objets sont empruntés aux collections du docteur Ozu, donc c'est des représentations d'écorchés d'anatomie qui datent du 19e siècle, qui représentent le corps.
C'est des représentations d'écorchés d'anatomie qui sont en papier mâché. L'idée du docteur Ozu, c'était de justement pouvoir transmettre l'apprentissage du corps et ses organes sans passer par l'autopsie. Donc l'idée de représenter le corps avec un matériau plastique, et c'est aussi ça ce qui nous intéresse, c'est que bah, du coup c'est une représentation, et malgré le fait qu'elle soit très précise scientifiquement, bah, y a une forme de plasticité, il y a quelque chose de très sculptural en fait dans ces objets, et nous c'est vraiment comme ça qu'on les perçoit, et c'est vraiment ce qui nous a intéressé dans l'idée de réinvoquer ces objets-là, c'est leur charge sculpturale.
Les photographies empruntent à 2 registres d'objets, celle du docteur Ozu, donc c'est représentation de corps anatomique en papier mâché, et le deuxième corpus reste aussi donc
liées à l'apprentissage du corps. Donc c'est des facettes de visage qui servent en fait à l'apprentissage du massage bouche à bouche, c'est le massage cardio-respiratoire. Donc il y a tout un jeu en fait d'emboîtement, d'enchâssement, de mise en relation de ces objets pour les faire dialoguer, relationner, presque dans une visée un peu charnelle ou dévorante selon le point de vue. Et la dernière page est un extrait de l'image fantôme d'Hervé Guibert. Donc c'est une sorte de clin d'œil et d'hommage aussi à son travail qui peut faire écho à cette série de photographies.
Est-ce que vous pouvez nous la lire? Parce que les auditeurs et auditrices ne peuvent pas encore voir. Ils pourront venir la lire dans l'espace d'exposition, mais en attendant...
Alors c'est une dernière page qui est un peu comme disséquée, ôtée du livre, qui met en jeu une situation de dialogue, donc on va la faire à deux. À t'avoir raconté cette histoire, je m'en sens complètement vidée. Cette histoire est mon secret, tu comprends?
Et après?
À toi, je ne veux pas dire, je t'en prie, ne la répète pas.
Oui, mais maintenant ton secret est devenu aussi mon secret, il fait partie de moi et je me comporterai avec lui comme avec tous mes secrets, j'en disposerai au moment venu et il deviendra le secret d'un autre.
Tu as raison, il faut que les secrets circulent.
Mais c'est plus des secrets alors.
Après, il y a cette idée de à partir du moment où un secret circule, est-ce que c'est toujours la même version du secret? Enfin, en fait, la fiction, c'est la question de la fiction.
Du coup, les œuvres dialoguent les unes avec les autres.
Je pense qu'on peut comprendre les points de rebond, les échos. Il y a des échos volontaires. On aime bien qu'il y ait l'idée d'une poursuite, d'une mise en chapitre dans notre travail. Il y a un ensemble de photographies accompagnées d'un texte qui emprunte à des installations intérieures, dont une qui est présentée dans l'exposition et l'autre qui dort pour l'instant à l'atelier. Mais oui, il y a l'idée vraiment de rebond, de peut-être reconnaître des motifs, des emprunts à des travaux déjà existants et de voir aussi comment on a évolué dans notre pratique de représentation de corps, de sa mise en fragmentation.
Oui, bah après c'est vrai qu'il y a des motifs récurrents, presque on pourrait les appeler des motifs obsessionnels si on avait envie d'utiliser ce mot à bon escient. Enfin, il y a le masque quand même qui est quasiment systématiquement présent sous différentes formes, mais il y a aussi le motif de la larme qui est, enfin, en fait, on l'a remarqué une fois que l'expo était en place, que c'était présent dans chacune des œuvres. On l'avait pas pensé comme ça, mais il y a des choses, ouais, qui se poursuivent, qui peuvent être conscientes ou pas.
Avec des, oui, en effet, dans l'exposition, des larmes plus ou moins discrètes, des masques qui deviennent des visages ou des facettes.
Bah, c'est pour ça que Marine parlait de généalogie. Il y a vraiment, enfin, en tout cas, nous, c'est en général, quand on commence une nouvelle œuvre, elle va forcément être la poursuite d'une autre. On va partir peut-être même d'un tout petit élément, mais qui va déjà appartenir à une autre œuvre pour continuer le récit.
Et donc toujours avec cette sorte d'oscillation entre image et objet. Donc là, on vient de voir plutôt de l'image et du texte aussi. On va avoir une autre, comme ça, ça donnera un aperçu. Et puis, si les auditeurs et auditrices veulent découvrir la suite, il faudra se déplacer dans l'espace d'exposition, qui est visible tout l'été, jusqu'au 3 septembre, c'est ça?
Oui.
On arrive dans le fond de l'espace d'exposition de l'atelier 1 rue Chateaubriand. On arrive face à une installation que je vais vous laisser décrire, si vous le voulez bien.
Alors, donc l'installation Les Vieux Démons se constitue d'un certain nombre d'éléments corporels fragmentés pour la plupart. L'installation se passe sur un tapis, donc les éléments en surgissent, soit sont posés dessus ou dépassent depuis le dessous du tapis. Il y a tout un jeu de textures, le tapis est d'une matière laineuse assez douillette, les fragments corporels ou les présences, les figures enfantines qui... sont mis en scène dans l'installation, portent des pyjamas de tissu molletonné. Il y a vraiment un jeu, une impression de douceur, en tout cas dans les matériaux choisis, qui contraste avec l'action qui est mise en scène sur le tapis, qui pour le coup est assez inquiétante, voire violente, en fonction de la subjectivité de la personne qui va regarder l'installation. Il y a aussi tout un jeu de couleurs. On a choisi une palette de couleurs très douce, donc ça va être des verts, des bleutés, des beiges, pour encore une fois amener cette idée de douceur. Et aussi, on a choisi cette palette parce qu'en fait, elle reprend la palette de la couleur du glauque. Le glauque signifie bleu-vert comme l'eau de la mer. Donc on aimait bien partir de cette couleur qui, évidemment, a un double sens. Le glauque, c'est aussi une sensation,
un ressenti.
Un ressenti.
Oui, qui peut du coup dans son interprétation aussi être faussée dans juste une mise en lecture, une mise en couleur. Donc c'est une installation qui joue vraiment sur l'idée de théâtralité, de simulacre. C'est quelque chose qui est omniprésent dans notre pratique. Et l'installation joue aussi sur l'idée de dualité, de dédoublement avec différents personnages, dont deux personnages qu'on pourrait appeler des jumelles, qui ont un bras unique, rattaché par le poignet. Il y a d'autres échos, il y a un fantôme qui est sur le tapis, qui peut faire écho à une bosse qui est sous le tapis, donc de quelque chose qui s'y cache. Un autre personnage peut évoquer un tour de magie, celui de la personne coupée en deux. Il y a des jeux, oui, de masques, de facettes. Et surtout, on s'est amusé pour cette installation à puiser dans l'existant, à partir d'objets qui simulent déjà le corps, qui le limitent. Donc cette fois-ci, on passe sur deux corpus très différents en gouttelette analogue. On est sur un corpus d'objets liés au carnaval, farce et attrape, avec des objets de déguisement, des masques, des fausses cigarettes, un faux dentier orthodontique. Mais le deuxième corpus, lui, glisse vers des objets de fétiche. Donc là, c'est des objets en silicone, des facettes de visage, des pieds réalistes, enfin même hyper réalistes, mains et gants, qui eux empruntent au corpus de fétichisme sexuel. Donc ce qui nous intéresse dans cette association, c'est aussi le glissement du statut des objets, aussi quand on connaît leur nature. Nous, on s'est intéressés aussi au fait de les mettre au repos et de leur évocation subjective. Et c'est des objets, les objets de farce et attrape, tout comme les objets de fétiche, c'est des objets qui invitent à la mise en scène, c'est des objets qui jouent justement sur ça, donc... en fait, à partir du moment où on signifie le fait qu'il y a ces deux corpus d'objets, mais qu'on n'est pas là pour indiquer lesquels sont lesquels, on peut vite avoir le trouble, en fait, se demander ben, est-ce que c'est un objet de farce et attrape, est-ce que c'est un objet de fétichisme. Finalement, où est la frontière? On laisse planer le doute, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et aussi, le titre « Les vieux démons » joue encore sur cette double lecture. C'est les vieux démons peuvent être assez clairement identifiés avec des masques de vieilles personnes un peu inquiétants, qui peuvent faire penser à des vieux démons vraiment au sens propre. Et en même temps, les vieux démons, ça peut être la cigarette, l'alcool, tout ce qu'on a envie de cacher sous le tapis. Enfin, il y a vraiment cette idée de jeu avec les codes de la psychanalyse et de comment une chose peut vouloir en dire plusieurs. Et finalement, notre travail, c'est un peu ça en permanence, de jouer sur les lectures plurielles, en gros.
Je crois que ça fonctionne avec cette pièce qui est très riche et qui peut évoquer plein de choses différentes. Avant de se quitter, on va voir une dernière pièce qui se trouve dans les petites alcôves où quand on rentre dans l'atelier, sur la gauche, il y a deux petites alcôves que vous avez investies, Laura et Marine.
Alors, on est sur une installation en deux temps. La première commence par Spleen Spring, une évocation du spleen et de version un peu printanière. On s'est attaché à l'étymologie du spleen qui veut dire la rate, l'organe de la rate. Et à partir de là, on a fait découler un certain nombre de formes en cire qui évoquent les ex-voto ou formes votives empruntées au registre païen ou chrétien. Alors peut-être définir ce qu'est un ex-voto pour mieux comprendre l'enjeu de l'installation. Un ex-voto, c'est un objet que l'on va sculpter, acheter, et surtout déposer dans le but de réaliser un vœu, ou alors ça peut être un votif aussi de gratitude que l'on dépose une fois que le vœu a été réalisé.
Et ce qui est intéressant avec cet objet, c'est qu'en fait le principe votif fonctionne en groupe, c'est pas un objet déposé quelque part par une personne, c'est plusieurs objets souvent même semblables, enfin en tout cas de la même famille d'objets déposés en groupe au même endroit par plusieurs personnes. Et nous là, c'était vraiment cette idée du groupe qui nous intéressait dans Spleen Spring, parce qu'on a fait fait une mise en dialogue entre cette idée du votif et les symptômes de la puberté. Et du coup, on était vraiment dans cette idée du groupe, une présence qui pourrait faire penser à des adolescents, et donc cette idée de quel corps on souhaite, presque, et puis quels symptômes on aura envie de soigner, puis avec beaucoup d'ironie là-dedans, parce qu'évidemment, il s'agit pas de... Enfin, on reprend certains codes de l'adolescence comme des stéréotypes, mais l'idée, c'est de les déjouer.
comme les petites pustules qui pourraient faire penser à des sortes de... c'est des perles, c'est assez... ça, on dirait presque des perles, c'est assez beau, mais en même temps, c'est, j'imagine, des boutons d'acné.
Oui, qui à divers moments, les boutons, en fait, vont se transformer en fleurs ou en flammes déposées sur des cierges. Donc, il y a plein de jeux de circulation des motifs aussi, où une glande sébacée va devenir une larme.
Le bulbe d'une fleur.
Oui. En fait, c'est un peu comme sur le même principe des vieux démons. Une chose peut en être plusieurs à la fois. Ça dépend de la manière dont on l'aperçoit et de comment elle est mise en scène.
Et alors là, on est sur vraiment un jeu de sculpture où tout est modelé ou moulé à partir de nos corps. C'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans notre travail. Là où dans les vieux démons, on n'en a pas parlé, c'était des emprunts à nos mains, donc des moulages en plâtre de nos mains. Ici, on a joué le jeu à travers la cire, donc on s'est aussi amusé de mélanger nos visages avec des fois un nez qui porte nos deux bouches, ce genre de glissement aussi. On passe vers la deuxième salle.
Donc là, on est devant le second chapitre qui s'appelle Summer Sum. Donc on était dans cette idée des saisons, summer, l'été, et sum, c'est un mot qui vient de l'arabe, qui veut dire venin en arabe, et qui, dans le vocabulaire courant, veut dire la colère, la rage. On dit j'ai le sum quand on a une situation qui nous met en colère. Et là, c'était cette idée, encore une fois, d'avoir un titre poétique qui peut porter plusieurs lectures et une mise en scène qui... vient pas illustrer le titre, mais qui propose plutôt une ambiance par rapport à cette idée de printemps, d'été, de puberté, d'adolescence. Donc Summer Sum se passe sur un banc, et là, au contraire de l'installation Spin Spring, il s'agit plutôt d'une représentation solitaire, on quitte le groupe, et là, on est plutôt face à une présence isolée qui est en train quasiment de disparaître. Et en fait, l'idée, c'était de reprendre ces fragments votifs pour venir composer une seule présence corporelle. Donc là, c'est deux jambes assises sur un banc, avec un bras posé sur la cuisse et une casquette crâne posée sur le banc. Cette idée, oui, de corps en train de disparaître, le buste étant absent, laisse la place aux personnes qui regardent d'imaginer, de projeter le reste du corps.
Il y a aussi donc, l'idée de disparition, mais aussi de flottement, en effet, parce qu'il y a aussi ce bras qui repose sur une cuisse, mais où l'appui semble assez incertain. Donc oui, l'idée d'un moment aussi un peu volatile...
On s'est intéressé à la notion d'état crépusculaire qui, du coup, fait penser à quelque chose qui va être de l'ordre du paysage. On a joué sur la lumière, sur un fond qui est un peu orangé, qui vient en arrière-plan de l'installation. Et en même temps, l'état crépusculaire, c'est un état aussi psychique de déréalisation, ce moment où on ne sait plus ce qui est réel et ce qui est fiction. Un espèce d'état un peu entre deux. Et là, c'était l'idée de proposer quelque chose qui va être de cet ordre-là en termes d'effet produit sur la personne qui regarde.
Summer Sum fait aussi appel au votif, mais d'une autre manière. Il emprunte au votif, mais à une pratique qui date du Moyen-Âge et qui est dite du contrepoids, où en fait, pour déposer un vœu, on déposait le poids de son corps, mais en cire. C'était le poids de son corps, alors équivalait au poids de la cire. Donc il y avait vraiment aussi l'idée de représenter un corps fragmenté, mais aussi porteur de vœux.
Toujours avec une palette toute blanche, en fait. Blanche et pas que crème.
Oui, bah, on a essayé de calquer la couleur de la cire d'abeille qu'on a utilisée et de s'en rapprocher au maximum, d'assumer la cire pour ce qu'elle est. On a hésité à la pigmenter, à faire un veinage, une carnation, et on trouvait que le dialogue des matériaux bruts était aussi très beau et illustrait aussi de manière plus convaincante l'idée du votif. Donc on est resté sur cette idée de la cire brute, et après on est venu composer pour le choix des accessoires, pour calquer justement cette carnation cireuse.
Mais c'est déjà une matière qui a des propriétés proches de la peau, avec la translucidité.
C'est la plasticité surtout qui nous intéresse, ce côté changeant, malléable.
L'idée que, en fait, la cire porte en elle la possibilité d'une potentielle refonte. Donc c'est une forme, c'est un vœu, c'est un moment, une représentation, mais elle pourrait très bien prendre une autre forme en réutilisant la même matière. Bon, là, évidemment, c'est figé parce que c'est une installation et qu'on se doute bien qu'elle ne va pas être refondue, mais ça porte quand même cette idée. Le matériau en lui-même porte cette idée. Ça n'aurait pas du tout eu le même sens si on l'avait fait en plâtre.
Il fallait que je demande, est-ce que vous avez mis les poils un par un sur les jambes ?
Oui. Oui, mais c'est des cheveux naturels qui ont été positionnés un par un dans la cire.
Donc, j'invite les auditeurs et auditrices à venir voir ce travail d'orfèvre de pilosité. Très bien, bien, merci beaucoup pour toutes ces explications sur vos œuvres. Si on n'a pas l'occasion, enfin j'espère que les auditeurs et auditrices pourront se déplacer dans l'espace d'exposition et découvrir votre travail ou redécouvrir s'ils le connaissent déjà. Auquel cas, sinon, est-ce que vous avez d'autres actualités? Quelle est la suite? Et potentiellement, où est-ce qu'on peut voir votre travail en dehors des espaces d'exposition?
Alors, on a un travail à l'atelier, dans l'espace de bonus. Sinon, on a une actualité en cours, donc au MacVal, pour l'exposition « Des histoires vraies », qui a commencé au mois de février, mais qui court jusqu'à la mi-septembre. Et deux actualités à venir, plutôt pour cet automne, une au Shed à Pantin, au centre d'art, avec un commissariat de Julie Crène. Et deuxième actualité très proche, pour le mois d'octobre, avec la Nuit Blanche Mayenne.
Sinon, on a un site internet botero-fiquet.com.
Très bien. Et si on veut vous suivre sur les réseaux?
Et sur Instagram, ça doit être botero.fiquet.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vais continuer mon petit tour avec les deux autres artistes avec qui vous avez réalisé cette exposition collective. Et je vous souhaite une très bonne continuation et une bonne fin de journée. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, à bientôt.
Vous êtes toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur JetFM 91.2. On est en train de découvrir l'exposition Tes soleils mouillés, qui présente le travail de Laura Botreau et Marine Fiquet, Marjorie Lebert et Léa Viretto, les lauréates du prix des arts visuels de la ville de Nantes de 2021. Avant d'aller découvrir la suite de l'exposition, on va faire une petite pause musicale avec la chanson Sun, the Rain de Hélène Alien, en écho au titre de l'exposition Tes soleils mouillés. Vous êtes toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain, sur JetFM 91.2.
on vient de faire une petite pause musicale avec la chanson « Sun, the Rain » de Hélène Alien, en écho au titre de l'exposition « Des soleils mouillés » qui présente le travail de Laura Bottereau et Marine Fiquet, Marjorie Lebert et Léa Viretto, les lauréates du prix des arts visuels de la ville de Nantes 2021. On continue et termine notre tour d'exposition avec Léa Viretto et Marjorie Lebert qui vont nous présenter le travail artistique qu'elles ont réalisé dans l'exposition « Des soleils mouillés ». Pour découvrir son travail. Bonjour Léa.
Bonjour Marine. Merci d'être ici.
Merci de me recevoir. Alors, on est ravis de découvrir ton travail après avoir découvert celui de Laura et Marine. Du coup, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter ?
Alors, je suis Léa Viretto, je fais principalement de la vidéo et de la performance. J'active aussi ces vidéos en des installations assez immersives. Et je réfléchis depuis quelques années beaucoup sur les usages qu'on fait des nouveaux médias et l'usage de l'image. Et la dernière pièce que je présente ici à l'atelier m'a permis un peu d'entrevoir une brèche pour aller vers d'autres questions. Voilà.
Du coup, on se déplace pour les voir.
On va commencer par une pièce que j'ai composée en 2018 qui s'appelle Icône 1, qui est une installation vidéo sculpture, qui est un peu une pièce sous forme d'hypothèse. Et l'hypothèse serait, pourrait être, et si les gestes de l'iconographie religieuse et les gestes que l'on appose sur nos surfaces tactiles de nos objets connectés ont été un peu designés de la même manière et dans les mêmes buts. C'est une hypothèse complètement fictive que je me suis fixée pour composer cette installation. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de créer une sorte de répertoire entre des similitudes à la fois physiques, vraiment, des différents gestes de l'iconographie religieuse et des gestes que l'on applique sur nos surfaces tactiles. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était l'usage qu'on fait des gestes liés aux objets connectés, donc tout ce qui est smartphone, ordinateur et compagnie. Ce qui m'intéresse dans ces gestes-là, c'est que c'est comme si ces objets deviennent des espèces de prothèses corporelles et que les gestes que l'on performe tous les jours quotidiennement sur ces objets sont presque devenus invisibles. Du coup, j'ai créé cette installation qui est à la fois vidéo et sculpturale à partir de mes mains. Et je vois ça un peu comme une sorte de data center des gestes qui pourrait regrouper une sorte de mémoire de gestes invisibles.
Ok, donc le tout installé sur une table avec une vidéoprojection.
Ouais, la vidéoprojection, c'est un peu le début d'une pratique que j'aime beaucoup et qu'on va retrouver dans plusieurs pièces, dans toutes les pièces que je présente ici, qui est la pratique de la photogrammétrie. Et c'est une manière de créer des images 3D ou des scènes en 3D qui a été beaucoup utilisée en archéologie. En fait, c'est l'idée de prendre un sujet ou un objet à 360 en photo pour, à partir d'un logiciel, recomposer l'objet ou le sujet en 3D. Moi, ce qui m'intéresse dans cette pratique, c'est à chaque fois que les prises de vue sont mal faites ou qu'il y a des manques au moment de la prise de vue, ça crée des sortes d'objets un peu lacunaires et d'images un peu lacunaires. Donc, c'est une pratique que j'use beaucoup dans mes formes et on va la retrouver un peu partout. Donc ça, en fait, cette installation, c'était un peu comme une amorce. Je l'ai faite au sortir des Beaux-Arts et je ne l'avais jamais activée, donc... sur le cartel de l'exposition, il y a 2008-2023, parce que c'est la première fois que je l'active dans son entièreté. C'est un peu une amorce au film Perfect Curves que je t'avais déjà présenté l'année dernière. On peut aller voir, si tu veux. Mm-hmm. En fait, Perfect Cœur, c'était l'idée de continuer un peu cette réflexion sur le geste et de cette fois un peu me demander de trouver une sorte de corpus de référence où, enfin, de manière assez intuitive, où le geste et l'image étaient forcément assez liés. Et l'idée, c'était de reproduire des espèces de dispositifs où le corps serait dirigé par une caméra. Donc il y a une sorte de rappel à l'aliénation que peut-être l'outil de captation, voilà. Donc les différentes expériences qui font partie de ce corpus, c'est un tableau de Giotto, qui est un peintre italien du Quattrocento. Donc c'est une image fixe, j'ai vraiment voulu, au lieu de rejouer le tableau de Giotto, c'est ce qu'on a fait aussi, mais j'ai pas gardé les images, c'était vraiment de garder l'image tableau. Donc c'est une image de 4 minutes où des personnes traversent l'image, littéralement, entrent dans le champ et en sortent. La deuxième image, c'était une sorte de dispositif qu'on a travaillé avec les performeurs et performeuses en workshop, en plusieurs workshops, qui était là, c'était l'idée de partir d'une partition qui a été créé par un couple de sociologues qui ont étudié les time and motion studies en usine sur les gestes des mains des ouvriers et des ouvrières. Et à partir de cette partition, on a un peu inventé des gestes complètement fictifs, des gestes à nous. Et c'est devenu une espèce de dispositif où on entre un peu plus dans le dispositif à chaque fois. Donc on part d'une grande image, ensuite on balaye la zone, et ensuite ce sont les performeurs et les performeurs qui s'auto-filment avec leurs objets connectés en train de performer le geste. Et la troisième image, enfin le troisième chapitre, c'est, ça part d'une référence à McLuhan, qui est un penseur des nouveaux médias, qui a sorti un livre en 1964 dont le titre était « The Medium is the Message ». Son éditeur a fait une erreur de frappe et du coup le livre est sorti sous « The Medium is the Massage ». Et du coup ça m'intéressait de faire un lien avec justement l'espèce de rapports hyper caressants qu'on a à nos nouvelles technologies, à nos nouveaux moyens de communication. Du coup, voilà, dans ce fameux troisième chapitre, on peut voir un des performeurs pratiquer une photogrammétrie qui nous fait arriver la pièce suivante. En fait, c'est du coup une série de deux images. La première, c'est justement une capture d'écran du film Perfect Curves, où on voit le photographe prendre en photogrammétrie le sujet. Mm. C'est une image, comme une image témoin, un peu, de cette pratique-là. Et la deuxième, c'est la fameuse photogrammétrie qui a été créée pendant le tournage de Perfect Curves et que j'ai voulu retravailler en sérigraphie avec un ami. J'ai pas tellement du tout l'habitude des images fixes et du coup, je m'étais un peu... Enfin, ça date de cette année, cette série, et je me suis un peu fixée cet exercice... mais qui pouvait aussi raconter un mouvement d'image, quoi. Enfin, donc on a cette petite image témoin et celle-ci, que je considère un peu plus comme un objet, c'est une sérigraphie sur verre, c'est enfin, une forme de technicité aussi liée à la main, puisque c'est une quadrichromie en 7 couches. On a eu des petites suées au moment de l'affaire. Quoi. mais voilà, il y a quand même toujours ce rapport de glissement d'image. Mais ça a été assez chouette de produire un élément fixe pour une fois.
Je suis prise dans un état de fascination. Cette fascination provoque comme une extraction de moi-même aux autres. Je regarde le feu, les gens autour et mes amis. Je suis comme en dehors. On dit de la fascination qu'elle agit comme une hypnose. À Marseille, c'est le moment du feu que j'ai retenu. Parce qu'il incarne cet état d'hypnose, il renvoie à mon impossible présence aux autres. Parce qu'il évoque aussi le passage d'un état à un autre.
imposé avec des forces, on appelait, on chassait. C'est célébrer la fin d'un cycle.
Soleil en milieu de nuit, ça a été un projet assez laborieux que j'ai mené cette année avec mon ami et collaborateur Élie Lécuru, qui est chorégraphe et danseur nantais. On est parti sur l'envie de s'entretenir, lui et moi, et d'enregistrer ces entretiens sur différentes questions qu'on avait en commun sur ces pièces-là, ces pièces en devenir. Donc, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la fonction du masque, la fonction du visage masqué, la fonction du costume, dans des zones bien particulières que je mettais en analogie, c'est-à-dire le carnaval, la fête, le spectacle et l'émeute. Et le projet, du coup, est parti de... On a constitué une sorte de bibliographie commune à partir de ces questions-là. Le projet, qui à la base était quand même très théorique et très conceptuel, a glissé vers une autre forme parce que je ne m'y retrouvais pas, en fait, dans toutes ces questions très théoriques. Je ne savais pas quoi raconter avec ça, finalement. Du coup, je me suis un peu laissée la possibilité d'éprouver moi, mon corps et ma manière, mon geste de faire image dans ces différents lieux. Donc, je suis partie à Venise. Ça parle aussi du carnaval de Marseille, qui est une sorte de zone justement un peu trouble où le carnaval est un carnaval, tout le monde est costumé, c'est la fête aussi. Et en même temps, le soir, on allume le feu et là, ça part en émeute. Donc, il y avait ce glissement qui m'intéressait. Et donc, je me suis laissée un peu... zoner dans ces espaces-là, à la fois pour créer des images, donc à l'inverse de Perfect Curves, où c'était les images qui dirigeaient les corps, dans Soleil en milieu de nuit, c'est un corpus d'expériences vraiment vécues par mon corps qui a pu créer des images. Les captations d'images ont été parfois un peu douloureuses, surtout à Venise, où en fait, il y a une espèce de frénésie de l'image, où j'avais l'impression que l'image mangeait même l'humain... Voilà, ça a été un projet un peu éprouvant. Et du coup, c'est un projet qui construit en trois parties. Décidément, j'aime bien chapitrer les choses. Dont une voix raconte un peu les expériences liées à l'image, liées à ces formes un peu rituelles qui existent dans le carnaval, rituelles et collectives, et à aussi l'impossibilité d'entrer complètement dans ces formes. La troisième partie, c'est une partie que j'ai décidé volontairement de recadrer. En tout cas, les images sont très abstraites, c'est des ciels. Parce que ça a été un événement que j'ai vécu très fort et que j'avais pas vraiment envie que ce soit identifiable. Donc la troisième partie est à la fois plus abstraite dans les images et dans la voix qui dit une sorte de petit poème de quatre lignes.
Ah, au niveau du dispositif de projection, puisqu'on est quand même sur un écran qui n'est pas, pas classique.
Non, alors le dispositif de projection, c'était quelque chose que j'avais plutôt toujours eu en tête, j'avais envie que ce soit une grande projection, j'avais pas du tout les images, j'avais très envie que ce soit une très grande projection qui soit immersive, et du coup il y a eu cette idée d'arquer un peu la projection pour que l'image même mange ceux qui la regardent, quoi. Et dans la pièce il y a aussi une partition, donc qui est la partition du texte avec les sous-titres, les didascalies et la voix, où j'ai voulu garder vraiment présentes les annotations de la comédienne avec qui j'ai travaillé pour faire la voix. Et aussi une série de trois masques en papier mâché. Donc ça, c'est comme une espèce d'ouverture à ce projet qui est un peu parti sous forme de plein de couches qui s'empilaient les unes sur les autres, où moi, je ne m'y retrouvais pas. Avec ce fameux Élie Lécuru, avec qui on faisait les entretiens, on a aussi eu envie de commencer à créer des sortes d'ateliers masqués ou costumés, performatifs, où justement, il était question des problématiques de comment entrer ou sortir dans la danse, comment établir un vocabulaire commun, comment établir des gestes communs. Et donc voilà, on usait un peu de ces masques, et ces masques-là, je les ai aussi utilisés dans différents moments, et surtout au moment de la réforme des retraites, dans les manifestations, je les distribue à la fois soit aux gens, soit à mes amis. Il y a des gens qui sont repartis avec des masques, donc j'en avais fait une trentaine, vraiment énormément. Et du coup, j'ai décidé d'en garder juste trois comme une espèce de rappel à la base du projet.
Donc voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. Du coup, j'invite les auditeurs et auditrices à se déplacer dans l'espace d'exposition pour venir découvrir ton travail vidéo, sonore, du coup d'images fixes maintenant aussi un peu. Donc là, c'est l'exposition jusqu'au 3 septembre, visible à l'atelier Un rue Chateaubriand, aussi inscrite dans le parcours du voyage à Nantes. Est-ce que dans la foulée, tu as d'autres actualités ?
Oui, alors je devais avoir une exposition juste avant cette exposition-là, en juin à Allain-le-Bras, avec quatre amis, qui est une exposition qui s'appelle Écologie performative, qui a été repoussée en novembre. Pour novembre-décembre à Allain-le-Bras, pour ces questions performatives, où j'aimerais bien aller vers une forme un peu que j'expérimente un peu moins, qui est de la performance live. Sous forme d'une conférence un peu comique, qui n'est pas du tout un registre que j'ai l'habitude de travailler, mais voilà, ça va être l'occasion de mettre un peu tout ça en friche, quoi.
En dehors des espaces d'exposition, si on veut voir ton travail, est-ce que tu as des supports sur lesquels on peut aller voir ça ?
Oui, alors j'ai mon Instagram, Léa Viretto. J'ai un site internet, c'est leavireto.com. J'aurai aussi bientôt une page sur Réseau d'artistes. Et on peut passer me voir à Bonus, à l'île aux des îles, au 42 Mail des Chantiers. Voilà.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, ben, je vais aller retrouver Marjorie pour la dernière partie de cette visite. Bonne fin de journée, Léa, et à très vite.
Merci Marine, à bientôt.
Au revoir. Alors du coup, on va aller rejoindre la dernière artiste qui va nous présenter son travail. Donc c'est Marjorie Lebert. Et je la vois juste ici.
Bonjour Marguerite.
Bonjour Marjorie.
Bonjour.
Donc est-ce que tu pourrais te présenter et puis présenter ton travail ?
Alors du coup, bah, je suis artiste plasticienne. J'ai mon atelier en ce moment à 30 minutes à peu près de Nantes. C'est un petit jardin sur lequel je le cultive. J'ai pour pratique d'être dans le paysage, souvent par la marche, sur des plus ou moins longs parcours. Et pour le projet que je présente ici, l'enjeu c'était plutôt de faire des micro-déplacements et d'envisager le paysage juste à l'échelle de mon atelier, de mon jardin-atelier et de son environnement proche. Donc le projet que je présente ici est issu que des cultures que j'ai faites et des cueillettes aux alentours. Et il a pour titre « À quoi ressemblera ma mélancolie dans un monde plus chaud ?»
Très bien, merci pour cette introduction. On se déplace pour aller découvrir chaque œuvre que tu proposes. Comment ça s'est passé la construction de tout ce projet ?
Eh bien, très bien, puisqu'en plus, c'est pensé comme un itinéraire au sein de l'exposition. Donc, on va commencer par peut-être aller vers la fin de la pièce précédente et le début de ce projet, qui se situe finalement au centre de l'espace d'exposition. J'avais développé sur un dernier projet un ensemble de performances qui s'appelait les porteuses de fables y déposent des couleurs. C'était des prises de voix chantées et criées dans l'espace public où j'activais une bannière qui est ici déposée, face cachée. Donc on n'a pas accès au geste qui est brodé derrière, mais on a accès au négatif qui est une broderie fait main et un tissage fait main, qui est teinté avec qui a un jaune un peu soufré et qui est teinté aux excréments de Bernache, puisque ce projet je l'avais développé au Québec et c'est une espèce d'oiseau migratrice qui est là-bas. À côté de cette bannière, vous avez un texte et ce texte en fait est venu un peu comme une réflexion autour de voilà, juste avant, le projet, c'était de prendre la voix dans l'espace public. C'était un acte militant par rapport à un contexte. Et je me demandais comment je pouvais pousser ces gestes et la colère et le désir de faire. Et donc, le texte qui est à côté est un peu le point de départ sur la réflexion autour de ma mélancolie. Qu'est-ce qui me traverse ? Qu'est-ce que ça me donne comme élan ? Et en fait, je compare ça un peu à un trampoline, cet objet qui, en fait, sans mouvement est un peu désactivé. Et à partir du moment où on se met en mouvement, on augmente la capacité d'être dans le faire. Voilà, donc c'est un peu cette idée-là qu'il y a derrière le texte.
Est-ce que tu peux nous en lire un extrait ou est-ce que ça ne fonctionne pas par extrait?
Je peux en lire un extrait, je peux lire le début, comme ça au moins ça donnera peut-être envie de lire la suite. Sa élastique détendue autour du cou brûlé au sel. Ça assèche les dents comme ongles sur tableau noir. Ça pleure à la gorge comme pollen chargé de lacrymo. Ça irrite les muqueuses intestinales comme cuisses écrites par paille séchée au soleil d'hiver.
Merci. Donc, j'invite les auditeurs et auditrices à venir découvrir la suite dans l'espace d'exposition de l'atelier. Et donc la suite de l'itinéraire.
Donc la suite de l'itinéraire, on va se diriger vers une édition qui est en trois temps, qui s'appelle « Le goût de l'autre aube », qui vient du moment de la cueillette du safran, qui se fait à l'aube pour garder le plus possible le goût et la couleur intense. Et pour moi, c'était un clin d'œil à la question du souvenir, puisque cette édition, en fait, est un travail à la fois de connaissance de mon jardin, de la terre et des plantes bio-indicatrices qui poussent, qui sont aussi nommées mauvaises herbes, mais qui renseignent sur l'acidité, l'alcalinité du sol et qui permettent de comprendre un peu ce sur quoi on travaille. À cela se croise une temporalité, en fait, qu'on peut venir voir en grappillant dans le texte, qui sont tous les soins que j'ai apportés dans le jardin, comment je l'ai organisé, mais aussi un travail de collage, d'hybridation de plantes qui donne des espèces qui n'existent pas, sur lequel on a un traitement noir, et là on retrouve cette idée de clair-obscur, et un texte est tapé dessus, et là c'est plutôt des réflexions intimes autour du soin apporté au jardin et ce que ça fait sur mon corps, et également d'une histoire dont je me souviens. Dans cette édition, on n'a que du papier de récupération et on a tout un jeu de couleurs sur des papiers buvards qui sont en fait des teintures issues des aliments que j'ai transformés. Voilà. Et ces couleurs, elles se retrouvent un petit peu partout dans l'exposition. Et c'est en même temps, on va parler après d'une autre pièce qui est une forme et une contre-forme. Et c'est un peu ça aussi, c'est que ces teintures, elles ont servi à autre chose qui n'est pas montrée dans cette exposition, qui adviendra plus tard. Il y a comme ça tout un jeu de plein et de vide. C'était le premier volet de l'édition, parce qu'il y a deux autres parties de l'édition. Peut-être qu'on peut aller voir ça
oui,
tout de suite.
Oui, bien sûr.
Donc, les deux autres parties sont positionnées dans une alcôve un petit peu à l'écart, avec très peu d'éclairage. On y a une installation sonore qui est le reste aussi d'une précédente performance qui mêlait alimentaire et écoute sonore. On a un ensemble de coussins sur lesquels on peut venir s'installer et qui ont une teinte de rouille issue d'un travail vraiment d'extraction des derniers tanins de tous les jus que j'ai utilisés, plus du sulfate de fer, extrait avec des clous, qui est en fait un produit qu'on utilise sur les gazons pour les rendre plus verts. Et donc là, ça les rend plus orangés. Et en face et à côté, on a la deuxième édition, qui est un livret qui mêle un travail photographique, une sorte de narration autour de la question de la recette qui peut être envisagée sous le prisme du filtre, parce qu'on a des textes aussi qui parlent de l'intime, sous le prisme de la macération, de la fermentation. Et pour manipuler ça, on a une paire de gants teints d'un verre qui va rappeler une autre pièce, qui est un travail à partir de lierre que j'ai collecté sur une ferme. Puisque à côté de ce travail au jardin, j'entame depuis 2 ans un travail d'apprentissage de gestes agricoles dans des fermes collectives. Et donc là, c'est un petit clin d'œil invisible à cette expérience de travail.
Est-ce qu'on peut l'ouvrir, l'édition ?
Je
ne peux pas tenir le micro et mettre les gants, donc je te laisse. Donc il y a des polaroïdes, des images.
Et jusqu'au cœur, on arrive avec en fait un papier qui est un papier de récupération qui est utilisé sur les vieux albums photos pour protéger les photos. Et là, pour le coup, c'est un texte qui est écrit dessus. C'est un peu la suite de certains textes qui sont sur l'autre partie de l'édition. Et là, on a aussi un jeu à voir avec la main. C'est des jeux de texture, mais également d'essayer de trouver la bonne luminosité et comment la main se place pour avoir accès au texte, jusqu'à arriver au cœur à une autre série de dessins sur d'autres papiers qui sont un peu disséminés dans toute l'exposition, qui sont des livres de botanique que j'ai découpés. Et donc là, j'y ai apposé des gestes d'effleurement du corps. Et c'est ces gestes qu'on retrouve aussi dans une autre pièce dont je parlerai plus tard.
Merci.
Et donc le troisième volet de l'édition, c'est un film que j'ai passé en capture d'écran pour en faire un Loporello, qui est assemblé avec un scotch métallique, qui est une matière aussi qu'on retrouve un petit peu partout, et qui montre les moments de cueillette du safran. Donc à la lampe torche, on explore cette édition à la lampe également pour en voir des détails, puisque en sous-titre de ce film, on a un poème qui est vraiment lisible que avec beaucoup d'attention, de la même manière qu'on cueille les stigmates, ça demande une précaution. Et ben là, c'est d'aller chercher les mots également, et donc c'est de nouveau un poème sur la rencontre de corps.
Et dans les casques?
Alors dans les casques, j'appelle ça un rhapsody ou une élégie poétique. En fait, c'est des textes chuchotés de trois auteurs et autrices importantes pour moi, dans lesquels j'ai extrait des morceaux que j'ai assemblés et que j'ai composés avec une improvisation avec un instrument de musique et des gestes au travail recueillis pendant les différentes expériences de ferme. Du coup, ça construit de nouveau une sorte de balade auditive et qui invite à rester, puisque c'est un temps assez long de méditation, de 20 minutes à peu près. Donc soit on grappille un petit bout, soit on reste pour ce déplacement autour des végétaux et des gestes agricoles. Voilà.
Là, on se redirige un peu, on retourne face au...
Oui, à l'édition déployée, ouais, le goût de l'autrobe, que j'ai voulu faire dialoguer avec les vrilles pousses à l'aisselle des feuilles, qui est une pièce en deux temps. D'un côté, on a une forme creuse, qui est vannée, enduite d'une matière réalisée à partir d'agar-agar, des jus de teinture, de pelure d'oignon, de jonc, et qui se détériore au fur et à mesure de l'exposition, qui évolue, qui sèche, qui craquelle, qui change de couleur, et qui, à un moment donné, va certainement moisir, enfin, elle est déjà et qui sent. Voilà, donc là, ça invite plutôt à venir se pencher dessus et sentir. Et au centre de cette forme, qui pour moi est presque comme un totem, parce que c'est vraiment une répétition de gestes, un rituel quoi, qui s'est mis en place. Et à l'intérieur, on a tout un ensemble de gestes qui sont un peu des échos qu'on peut trouver un peu partout. Et la forme est venue de ces arbres trognes qu'on voit en limite de propriété dans les fermes, qui étaient en fait des arbres détenus par les propriétaires et coupés par les personnes qui exploitaient les terres. Donc ça faisait grossir le tronc et au centre, en général, se créaient des cavités dans lesquelles le vivant venait s'installer. Donc les micro-organismes, des vers, les oiseaux, voilà, c'est toute une chaîne alimentaire. Et donc il y avait un peu cette idée de créer une forme qui accueille du vivant, qui va se déployer au fur et à mesure du temps.
Est-ce que tu sais quel vivant va venir visiter pendant l'exposition ?
Alors, je suis arrivée avant les derniers gestes que j'ai faits ici avec des moucherons, des mouches et des champignons, mais plutôt des moisissures que je n'ai pas identifiées. Je n'ai pas ce savoir-là, mais du coup, ça avait une teinte légèrement verdâtre à l'intérieur. Voilà, donc ça va continuer son évolution. Et donc le pendant de cette forme est un sac qui, lui, est fermé. On peut quand même y passer la main, puisque l'idée, c'est qu'il contient des semences que j'ai produites sur mon terrain. Donc on peut y aller, éventuellement. Donc il faut se déplacer. De chaque côté de l'évry, il pousse à l'aisselle des feuilles. Et en fait, on voit l'autre morceau. Elles ne sont pas collées physiquement, mais en fait, par la vue, on peut encore les connecter.
Donc au fond de l'espace d'exposition, à côté de la vidéo de Léa.
Ce sac à semences, où là, le rôle des médiateurs et médiatrices est très important, puisque c'est elles et eux qui invitent à venir cueillir. Puisque cette pièce a pour but d'être activée tout au long de l'exposition, que chaque personne qui se sent la responsabilité de ce logiciel libre puisse le faire perdurer et qu'on ait une dispersion, comme je dis, recommandée et qu'elle puisse continuer à s'égrener. C'est une dizaine de légumineuses différentes que j'ai reçues d'une ferme où j'ai travaillé. Je me suis intéressée à l'étymologie, parce que les légumineuses, c'est très intéressant sur le côté nutritionnel, mais en fait, au niveau de l'étymologie, ça vient de légere en latin, et ce mot porte en lui plein de significations, comme choisir, ramasser, lire, rassembler, et en fait, c'est toutes ces notions que j'ai essayé de traduire dans l'exposition, et notamment rassembler pour la pièce qui viendra après. Et donc là, on a les médiateurs et médiatrices qui invitent à la cueillette. Et ensuite, dans la notice de l'exposition, il y a un encart qui donne des informations sur comment prendre soin de cette plante qui est auto-féconde. Donc une graine permet de pouvoir en avoir davantage et si on a envie, continuer ce processus.
Donc on peut se servir.
Donc on peut se servir, voilà. Donc c'est un pliage très simple qu'on voit dans tous les trocs de plantes quand on s'intéresse à ça. Bon, alors là, on n'est pas sur la plus originale, c'est un pois de Provence. Mais certaines sont plus très connues. Elles ont voyagé dans un sens et pas forcément...
Mais ça se plante dans un jardin, pas trop sur un balcon d'appartement.
Si, ça peut se planter en pot.
Okay.
Et le seul truc, c'est que c'est pas maintenant, parce que ça aurait dû déjà être fait depuis le printemps. Donc là, il va falloir faire le semis en avril prochain.
Donc si on vient en prendre dans l'espace d'exposition, attention, on ne plante pas tout de suite,
non.
Sinon ça risque de ne pas prendre. Il faudra être patient et attendre le prochain printemps.
C'est ça, et la garder bien à l'obscurité et à l'abri de l'humidité. Et en fait, ce qui m'intéressait aussi dans les légumineuses, cette étymologie avec les guérés, c'est que ça a donné notamment sortilège. Et ça viendrait du fait qu'on cueille des questions, qu'on ramasse des questions, qu'on les offre aux oracles. Et en fait, moi là, les graines n'ont pas été testées. Il n'y a pas eu de test de germination. Comme quand on achète des graines en supermarché ou en jardinerie. L'idée, c'est qu'on prend une graine et on ne sait pas si ça va prendre ou pas. Voilà. Il y a ce jeu de hasard aussi et s'en remettre à je ne sais pas quoi.
Et donc, pour finir.
Et donc, pour finir, je vais repartir sur rassembler, qui était un des termes de l'étymologie de des légumineuses. Là, l'idée, c'était de pouvoir répondre à la question « À quoi ressemblera ma mélancolie dans un monde plus chaud ?» à plusieurs. Donc j'ai invité deux artistes et un artisan à se joindre à ce projet. Et on a travaillé sous des formats de résidence très denses pour essayer de trouver une forme d'installation qui soit performée, parce que c'est en attente de performation, c'est un contenant à lui seul d'une performance qui va avoir lieu à la fin de l'exposition et qui va accueillir des aliments, tous les à côté de ce que... de toutes les couleurs. Et donc, on a un travail autour d'un geste répété, mais qui prend aussi en considération les quatre individus qui sont derrière, parce que toutes les formes sont différentes, même s'il y a une intention d'un contenant qui se prend un peu comme quand on ferme les mains côte à côte pour boire de l'eau au robinet. Et c'est en terre paille. On a travaillé sur des différentes cuissons dans le feu, dans la braise, dans l'espace de cuisson du four à pain, qui est un four à pain qu'on a construit également pour le projet. À côté de cette installation, on a quatre livrets qui sont en accès libre pour la consultation. Et dedans, on retrouve dans les quatre livrets les mêmes images. On s'est donné un A4 recto verso par personne et on a créé dans chaque livret des assemblages différents, ce qui fait qu'on rentre par la parole visuelle d'une des quatre personnes qui fait partie du groupe. Et au centre, on retrouve sous une autre qualité de papier qui prend la lumière et qui permet de faire un jeu de négatif, des gestes qui ont été des gestes de pensée ou de réalisation au fur et à mesure des résidences de travail. Voilà, et ce projet s'appelle Les Ruses du Serpent Cerceau. Et le groupe initiateur du projet a le nom de Le Fol. Et Le Fol, ça regroupe Alice Godot, Marion Moscovitz et Nicolas Tenerieux et moi-même.
Pourquoi Le Fol ?
Alors c'est venu d'un texte d'Ursula Le Guin qui a accompagné, on s'est beaucoup échangé de textes, on a beaucoup fait de lecture pendant ces moments de résidence. Dans un de ses ouvrages qui s'appelle Danser au bord du monde, moi j'avais parlé d'un texte qui s'appelle La théorie de la fiction panier et une des personnes a lu un autre extrait dans lequel il y avait mention du fol avoine. Et du coup on trouvait ça intéressant de s'emparer de ça, d'enlever avoine et aussi de changer le pronom pour créer du trouble au niveau de l'identité de ce groupe et qu'il y ait plusieurs lectures possibles.
Très bien, bien merci pour toutes ces explications. Donc si j'ai bien compris, il faut revenir le 2 septembre, c'est ça ?
Voilà, alors on a sur la notice mis une adresse mail où on peut nous écrire pour nous prévenir, parce que l'idée c'est qu'on sache un petit peu combien de personnes vont être présentes pour se rendre compte du nombre de personnes à qui on va pouvoir offrir des dégustations culinaires, puisque l'idée là c'est vraiment une performance autour du goût du souvenir. Et après, des personnes qui viendraient pourraient assister, mais peut-être pas goûter, mais en tout cas ça va être une performance en son, en geste et en goût. Il nous a semblé important que malgré que toutes les pièces ne soient pas pensées en accessibilité, forcément. Celle-ci, on voulait qu'elle soit accessible, donc elle est interprétée en langue des signes française.
Donc si on veut réserver pour la performance, on écrit...
lefol@protonmail.com. Le fol avec deux L.
Donc pour venir clôturer ce projet, parce que finalement, tes œuvres se terminent vraiment à ce moment-là.
Oui, et à la fois, ce n'est pas totalement une conclusion, parce que cette forme, on sait qu'on aimerait bien, peut-être, elle n'a pas encore existé une fois, donc on ne va pas s'aventurer sur d'autres fois, mais on sait que c'est une formation qui nous a enrichis les uns les autres, les unes les autres. Mais moi, ce que je sais, c'est que la forme des vrilles poussent à l'aisselle des feuilles, ne va pas rester figée. Les semences vont partir. Si elles ne partent pas toutes, moi, je les recultiverai. Et cette vannerie qui accueille des gestes va être mise à un endroit pour reprendre une place, puisque c'est que des matériaux qui peuvent se dégrader. Et l'idée, c'est qu'elles reprennent une suite de vie. Donc ça ne clôturera pas, mais en tout cas, ça sera une échappée de l'espace de l'atelier.
Donc, rien ne se crée, rien ne se perd.
Tout se transforme.
Très bien, bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. En dehors de cette exposition, est-ce qu'il y a d'autres actualités à venir pour toi ?
Alors, pas des actualités au sens des expositions, puisque je fais aussi un travail de transmission au milieu scolaire, donc ça va être des choses qui vont m'accompagner l'année prochaine. Mais c'est surtout que je vais continuer à développer ce travail entre les fermes et le travail d'atelier. Donc j'ai deux périodes prévues à la sortie de l'expo pour continuer à enrichir ce savoir sur les semences, puisque l'idée c'est de pouvoir en connaître encore davantage et que ça puisse être deux activités parallèles et qui dialoguent. Donc voilà, je vais me concentrer plutôt là-dessus. J'ai aussi une proposition pour montrer une vidéo à Saint-Nazaire en septembre, dans le cadre d'une exposition collective à la Galerie des Franciscains. Voilà, mais ça va être à la rentrée.
Et en numérique, est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller voir ton travail ?
Alors, il y a toujours mon site, marjorie-lebert.com, et j'ai un Instagram qui donne d'autres vues du travail, qui complète, on va dire.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Marjorie. Tu clôtures cette visite d'exposition des Soleils Mouillés, visible jusqu'au 3 septembre 2023. Les horaires d'ouverture sont tous les jours, de 10h à 19h, ce qui est une amplitude assez longue, donc j'invite les auditeurs et auditrices à venir visiter l'exposition pour découvrir le travail des lauréates du prix des arts visuels de la ville de Nantes 2021. Eh bien, merci beaucoup, Marjorie, et je te souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.
Merci Marine. À bientôt.
C'était Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain, sur Jet FM 91.2. On vient de découvrir l'exposition Des Soleils Mouillés, qui présente le travail de Laura Bottereau et Marine Fiquet, Marjorie Lebert et Léa Viretto, les lauréates du prix des arts visuels de la ville de Nantes de 2021, et dont la commissaire d'exposition est Septembre Tibérien. Cette exposition fait partie du parcours du voyage à Nantes. Elle est visible jusqu'au 3 septembre 2023 dans l'espace d'exposition de la ville de Nantes, l'atelier situé en rue Châteaubriant. Elle est ouverte tous les jours de 10h à 19h. J'espère vous avoir donné envie d'aller la voir. Un grand merci à Laura Bottereau et Marine Fiquet, Marjorie Lebert et Léa Viretto, les lauréates du prix des arts visuels de la ville de Nantes 2021, et à la commissaire d'exposition Septembre Tibérien pour leur explication sur l'exposition Des Soleils Mouillés. Cette émission a été réalisée par l'association Already Made, produite par Marine Combe. Chers auditeurs et auditrices, merci pour votre écoute. On se retrouve à la rentrée pour continuer de voir avec les oreilles.